France Culture.
Et le journal vous est présenté par Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. L'administration Trump retourne voir Vladimir Poutine. L'émissaire du président américain est à Moscou, notamment pour y parler de l'Ukraine. La Russie doit se bouger, affirme Donald Trump. Les explications de Sylvain Tronchet dans un instant. Nous nous intéresserons également à la région de Koursk où l'armée ukrainienne bat en retraite. La Cour suprême des États-Unis inflige un revers symbolique à Donald Trump. Elle lui enjoint de faciliter le retour d'un migrant salvadorien expulsé par erreur, le récit de Loïc Loury. Les entreprises françaises seront moins nombreuses à embaucher en 2025. Un quart d'entre elles ne prévoit pas de le faire, les explications de Flore Caron. Les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie peinent à avancer. Indépendantistes et non-indépendantistes peinent à s'entendre sur le projet d'accord soumis par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Les explications de Stéphane Robert dans ce journal. Et puis nous reviendrons également sur le droit de suite au droit d'auteur qui viserait le livre d'occasion et que veut mettre en place la ministre de la Culture, Rachida Dati. Les négociations sur la paix en Ukraine sont-elles en train de prendre un nouveau tournant? Il est bien sûr trop tôt pour le dire. Reste que dans un message sur son réseau social, Donald Trump s'impatiente. La Russie doit se bouger, écrit-il. Et au même moment, il envoie son émissaire, Steve Witkoff, une nouvelle fois en Russie. L'envoyé spécial du président américain est arrivé à Saint-Pétersbourg, où il a été d'abord accueilli par l'envoyé spécial du président russe, Kirill Dmitriev. Il rencontre actuellement le président russe, Sylvain Tronchet, à Moscou.
L'arrivée impromptue de Steve Witkoff en Russie, elle n'était pas annoncée, on ne l'a appris qu'au dernier moment, signifie certainement que l'envoyé spécial de Donald Trump est porteur d'un message, et selon toute probabilité, il concerne la guerre en Ukraine. Cette trêve que Washington réclame formellement depuis 2 mois maintenant et qui ne vient pas, même les tentatives limitées aux installations énergétiques et à la mer Noire n'ont pas abouti, d'où ce message assez vindicatif de Donald Trump sur son réseau social qui semble désigner la Russie comme le camp qui bloque les négociations. Du côté du Kremlin, on confirme effectivement que la discussion porte sur l'Ukraine. Moscou a diffusé quelques images de Vladimir Poutine accueillant Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg où il se trouvait aujourd'hui. Mais il ne faut pas s'attendre à des avancées dès aujourd'hui, a déjà prévenu le porte-parole de la présidence. Pas plus apparemment qu'à une communication à l'issue de la réunion. Cette troisième visite de Steve Witkoff en Russie s'annonce a priori plus tendue que les deux précédentes.
Et les alliés de Kiev sont eux réunis aujourd'hui. Aujourd'hui à Bruxelles, les représentants d'une cinquantaine de pays soutiens de l'Ukraine se retrouvent avec au menu des discussions l'identification des besoins les plus importants de l'armée ukrainienne et la planification de la production d'armement. Volodymyr Zelensky demande ce soir des progrès sur un contingent militaire international en Ukraine et également des systèmes de défense anti-aérienne Patriot supplémentaires. Car sur le front, les forces de Kiev sont en difficulté. Exemple dans le secteur russe de Koursk où elles avaient lancé une importante offensive l'été dernier. Depuis quelques semaines, les Ukrainiens y subissent de lourdes pertes et se replient, comme l'a confié ce soldat à nos envoyés spéciaux en Ukraine, Faustine Kalmel et Gilles Gallinaro.
Sergueï est membre de la 95e brigade d'assaut depuis le début de la guerre, engagé dans l'offensive de Koursk avant de devoir céder du terrain ces dernières semaines.
On était au-delà de Soudja et maintenant les Russes ont de nouveau repris le contrôle de Soudja. Jusqu'à la frontière, on a beaucoup reculé. Là-bas, la ligne de front, c'est un demi-cercle. Partout, il y a des combats. Il y a énormément de pertes.
Ce quarantenaire qui a servi auparavant dans le Donbass a vu le conflit évoluer vers ce qui est désormais une guerre électronique, dit-il.
Les drones de renseignement avec des modules GSM très puissants, ils peuvent nous détecter. Ils volent à 3 ou 5 km de haut, ils nous repèrent, on est grillé. Et c'est sûr, ils tirent sur nos positions.
Un feu nourri qui cause d'importants dégâts matériels et humains.
Les gars sont au bout de leur force. Ils ont déjà sacrifié leur santé. Il est temps d'arrêter cette guerre. Elle n'aurait jamais dû commencer.
Les camarades de Sergueï continuent de perdre le terrain, grignoté depuis cet été. L'armée russe a revendiqué hier la prise d'un village ukrainien près de Soumy.
Le reportage Faustine Kalmel et Gilles Gallinaro avec Yachar Fazilov. Aux États-Unis, la Cour suprême inflige une rare défaite à Donald Trump en sommant son administration de faciliter le retour d'un migrant salvadorien expulsé par erreur. Il s'appelle Kilmar Abrego Garcia et il a fait partie des plus de 200 personnes expédiées il y a quelques semaines par avion vers une prison du Salvador. L'institution judiciaire américaine, à majorité très conservatrice, s'est prononcée à l'unanimité dans cette affaire très symbolique, Loïc Loury.
Il y a tout juste un mois, Kilmar Abrego Garcia, 29 ans, était arrêté après sa journée de travail dans le Maryland. Son statut légal, lui dit-on, a changé et il est expulsé, comme 200 autres, vers le Salvador et une prison de très haute sécurité pour son appartenance présumée au gang MS-13. Problème, Abrego Garcia n'a jamais vécu à New York où on l'accuse d'avoir sévi, il est marié à une Américaine et un tribunal en 2019 avait définitivement annulé tout arrêté d'expulsion contre lui. L'administration Trump a bien reconnu une erreur, mais refusait malgré tout d'œuvrer à sa libération, et notamment aux injonctions d'une juge qui sommait le président de faciliter et d'effectuer le retour d'Abrego Garcia. C'est donc cette décision que la Cour suprême reprend en partie à son compte, une défaite pour Donald Trump qui accuse régulièrement les juges de s'ingérer dans ses affaires. Reste toutefois à savoir comment et quand Abrego Garcia rentrera chez lui, car la Maison-Blanche, sans surprise et malgré ses obligations, continue à traîner des pieds.
Loïc Loury depuis New York. Cela se passe encore en 2025. Nous sommes en Afghanistan. Les talibans ont exécuté aujourd'hui 4 hommes en public dans 3 provinces différentes en vertu de l'application stricte de la loi islamique et ce dans des stades pleins. Il s'agit du plus grand nombre d'exécutions depuis leur retour au pouvoir en 2021. Valérie Crova.
Ces exécutions se sont déroulées sous les yeux de dizaines de milliers de personnes réunies dans des stades bondés, un spectacle morbide auquel les autorités locales avaient invité les citoyens à venir assister à une seule condition, ne pas prendre de photos ou de vidéos pour ne pas que les images soient diffusées à l'extérieur d'Afghanistan. Les 4 hommes avaient été reconnus coupables de meurtre. Ils ont été exécutés par balles. Ce sont les proches des victimes qui les ont tirés alors que les condamnés leur tournaient le dos. Les ordres d'exécution avaient été signés par le chef suprême des talibans, l'émir Akhundzada, qui gouverne le pays depuis Kandahar et impose une application ultra-rigoriste de la charia. Les familles avaient la possibilité d'accorder leur pardon, ce qu'elles ont refusé de faire. Depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, il y aura 4 ans, en août prochain, les talibans procèdent aussi régulièrement à des flagellations publiques en cas de vol, d'adultère ou de consommation d'alcool.
Valérie Crova pour France Culture. Le rabaissement des droits de douane à 10%, c'est une pause fragile dans la guerre commerciale déclarée par Donald Trump il y a un peu plus d'une semaine. Pause fragile, c'est l'expression employée par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le président français estime que l'Europe doit continuer à mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger. États-Unis et Europe ont 90 jours pour négocier. Chaque camp a suspendu la hausse des droits de douane. En revanche, la Chine a annoncé ce matin qu'elle allait porter ses droits de douane de 84% à 125% sur les biens américains. La réponse aux surtaxes américaines. Conséquence de cette guerre commerciale, l'Union européenne craint le déferlement de produits chinois sur son sol. Et puis à l'heure où les prévisions de croissance se revoient à la baisse et l'inquiétude des entreprises est, elle, à la hausse, voilà un chiffre qui semble confirmer l'assombrissement du tableau économique. Les intentions d'embauche des employeurs pour cette année ont baissé de 12,5%. Bonsoir Flore Caron.
Bonsoir Nicolas.
Moins d'un quart des entreprises envisagent de recruter. Quelles en sont les raisons?
24% des établissements exactement, c'est 4 points de moins que l'an dernier et près de 9 points de moins qu'en 2023. En réalité, on est revenu à la même situation qu'avant Covid. Cette baisse touche essentiellement les petites et moyennes entreprises. Et si les recrutements abandonnés faute de candidats ont nettement diminué, en revanche, l'argument économique revient en force. Cyril Nouveau, directeur des statistiques, des études et de l'évaluation chez France Travail.
Quand on demande aux employeurs pour quelles raisons ils anticipent les difficultés, il y a un motif qui monte cette année, c'est les employeurs qui nous disent craindre des difficultés de recrutement liées à des problèmes budgétaires, de moyens financiers. Peut-être que les petites entreprises sont plus concernées par cet aspect-là et ça peut les conduire, dans certains cas, à repousser, renoncer à leur projet de recrutement.
Cette baisse concerne l'ensemble du territoire français et tous les secteurs d'activité, mais certains métiers font exception à la règle, particulièrement ceux en lien avec le vieillissement de la population.
On voit en effet qu'il y a quelques métiers pour lesquels le nombre de projets de recrutement augmente. C'est notamment le cas d'un certain nombre de métiers de soins, c'est le cas des aides-soignants, c'est le cas des infirmières et sages-femmes, pour lesquels on a une hausse des projets de recrutement et donc des besoins et des tensions qui restent fortes pour ces métiers.
Par ailleurs, le manque de main-d'œuvre reste concentré sur les mêmes métiers que l'an dernier. Les serveurs, les aides de cuisine, les agriculteurs, les agents d'entretien aussi. Des métiers réputés pour être pénibles et mal rémunérés.
Merci Flore Caron. L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers jours entre l'État français et les partenaires politiques locaux. Une réunion plénière s'est encore tenue ce matin en visioconférence entre Paris et Nouméa. Principaux sujets, le droit à l'autodétermination de l'archipel, ainsi que l'écriture d'une loi fondamentale qui ferait office de constitution calédonienne et qui serait incorporée à la constitution française. Ces deux points font partie d'un projet d'accord institutionnel, projet qui doit servir de base à des négociations entre indépendantistes et non-indépendantistes. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Nicolas.
Théoriquement, ces négociations, elles sont censées démarrer à la fin du mois d'avril, quand Manuel Valls va retourner sur place pour la troisième fois en quelques semaines. Le problème, c'est que de chaque côté, les radicaux campent sur leur position et font craindre un enlisement de ces discussions.
Oui, début avril, quand Manuel Valls est reparti de Nouméa, l'heure était à l'optimisme. Il avait mis sur la table un projet d'accord sur l'avenir institutionnel et économique de l'archipel. Et toutes les formations politiques, indépendantistes et non-indépendantistes, avaient signé un document commun qui annonçait l'ouverture de négociations pour la fin du mois d'avril, date à laquelle, vous l'avez dit, il était convenu que le ministre retourne sur place. Après plusieurs semaines de discussions tendues, longues et difficiles, la situation semblait commencer à se débloquer. Mais les réunions en visioconférence qui se tiennent depuis quelques jours, réunions préparatoires au nouveau déplacement du ministre, ont à nouveau fait apparaître des points de blocage qui, à ce stade, semblent difficilement surmontables. Il faut considérer qu'il n'y a pas seulement deux camps, indépendantistes d'un côté, non-indépendantistes de l'autre. En réalité, il y en a quatre. Il y a d'un côté les indépendantistes modérés et les indépendantistes radicaux. Et la même chose de l'autre côté, non-indépendantistes modérés et non-indépendantistes radicaux. Les modérés de chaque camp discutent entre eux et font des propositions, mais les radicaux refusent de faire la moindre concession au camp d'en face. Par exemple, sur le droit à l'autodétermination, autrement dit la possibilité d'organiser à nouveau à l'avenir une consultation sur l'indépendance de l'archipel. Les loyalistes, qui sont les non-indépendantistes les plus intransigeants, savent pertinemment que c'est une exigence incontournable des indépendantistes, un point dur comme on dit, or ils rejettent obstinément ce point de discussion. Et on a le même comportement du côté de l'Union calédonienne, la branche la plus dure du FLNKS. Eux ne sont même plus tout à fait sûrs de vouloir entamer des négociations fin avril. Ils se réuniront deux jours avant pour décider ce qu'ils font. Et donc, tout paraît à nouveau figé. Alors que l'archipel est au bord de l'effondrement économique, maintenu tout juste à flot par l'aide financière de l'État français. Dans un communiqué publié cet après-midi, le ministère des Outre-mer écrit ceci. Le chemin vers un accord demeure exigeant, les positions sont encore éloignées, mais des évolutions sont possibles. Ce constat dissimule à peine l'inquiétude des négociateurs du ministère.
Merci Stéphane Robert. L'opposition à Olivier Faure s'organise à deux mois du congrès du Parti Socialiste. Nicolas Mayer-Rossignol, Hélène Geoffroy et Philippe Brun vont fusionner leurs contributions pour déposer un texte commun. On est là dans la traditionnelle procédure interne et le jeu des alliances très politiques qui mène à l'élaboration de motions, puis l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste. Le 81e congrès du PS se tiendra à Nancy à partir du 13 juin. Auparavant, les adhérents auront voté sur les textes d'orientation. Après les emballages plastique. C'est au tour des jouets pour enfants de dire adieu au PFAS. La Commission européenne et les États membres ont trouvé un accord hier soir pour bannir les polluants éternels des jouets. Pour rappel, les PFAS, ce sont ces substances chimiques, le bisphénol A notamment, utilisées pour rendre les objets imperméables et anti-adhésifs. Sauf qu'ils peuvent avoir des effets délétères, cancer, problèmes de fertilité, de développement immunitaire, perturbateurs endocriniens. L'accord doit encore faire l'objet d'une adoption formelle dans les semaines à venir. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Quels sont les produits concernés ?
Les jouets pour le bain, les poupées, les anneaux de dentition, bref, tout ce que les enfants vont porter à la bouche, parce que c'est comme ça que les PFAS rentrent dans l'organisme. Il y a aussi les parfums allergènes qui peuvent atteindre les voies respiratoires et qui sont donc interdits dans les jouets pour les tout-petits. Ça n'est que la suite logique de l'interdiction dans les emballages alimentaires, souligne Pascal Canfin, eurodéputé centriste du groupe Renew. Il aurait été incompréhensible, dit-il qu'on fasse attention aux aliments en contact avec les PFAS et pas aux plastiques que les enfants mettent directement dans leur bouche. Alors ces toxiques ne vont pas disparaître des rayons dès demain. Les industriels ont jusqu'à 2029 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Le problème, c'est que 80% des jouets que l'on trouve sur le marché européen sont en fait fabriqués en Chine. Il faut donc avancer sur la réforme des douanes, appuie encore Pascal Canfin. Elle est en négociation à la Commission européenne depuis 2 ans et devrait aboutir d'ici 2028 pour mettre fin, entre autres, à l'exonération de droits de douane pour les colis en dessous de 150 euros, ce qui est souvent le cas pour les jouets. Par ailleurs, l'accord conclu hier soir comprend aussi un passeport numérique pour tous les jouets vendus dans l'Union, un QR code qui renvoie vers leur fiche technique avec la composition et la traçabilité.
Merci Mathilde Cariou. J'ajoute que la commissaire européenne en charge de l'environnement veut aller plus loin et déposer d'ici l'année prochaine une proposition pour interdire les PFAS dans l'ensemble des objets du quotidien. Le marché du livre d'occasion concerne 1 livre sur 5. Or, il échappe totalement aux acteurs qui produisent le livre. Ce matin, le président du Festival du Livre de Paris, qui vient d'ouvrir ses portes, le président a demandé une taxe sur les livres d'occasion pour contribuer à la rémunération de ceux qui feront les livres de demain. Bonsoir, Adrien Toffolet.
Bonsoir.
Visiblement, Vincent Montagne a obtenu satisfaction. La ministre de la Culture, Rachida Dati, veut mettre en place ce qu'elle appelle un droit de suite.
Oui, il s'agirait d'une forme d'extension du droit d'auteur ou, comme l'appelle le ministère de la Culture dans un communiqué, un droit de suite au droit d'auteur. Il imposerait aux revendeurs d'occasion de reverser une partie de la recette de chaque vente de livre à un organisme de gestion collective qui se chargera de rémunérer les éditeurs et les auteurs actuellement lésés. C'est avec cette solution juridique, en tout cas, que Rachida Dati annonce la saisie du Conseil d'État. Première étape, premier pas concret dont se satisfait déjà le syndicat national de l'édition. Renaud Lefebvre est son directeur général.
C'est vraiment la mesure centrale que nous attendons, c'est qu'on se mette véritablement à étudier de manière approfondie cette piste. On sait qu'il faudra l'insérer dans un dispositif qui est complexe en matière de droit d'auteur, mais le fait que le ministère de la Culture engage ce travail et fasse appel à l'avis du Conseil d'État sur son insertion en droit français, c'est vraiment une avancée très importante et c'est celle que nous attendons depuis plusieurs mois.
Concernant les délais, ils peuvent être relativement courts une fois l'avis du Conseil d'État rendu. Le dispositif pourrait faire l'objet d'un amendement porté par le gouvernement, intégré à une proposition de loi en cours de préparation. Reste à préciser le périmètre d'application de cette extension du droit d'auteur, car ce sont les grandes plateformes de revente en ligne comme Vinted, Rakuten ou encore Momox qui sont visées, sur lesquelles une nouveauté peut se retrouver en vente quelques heures après seulement sa publication, plateforme dont l'activité peut aisément être qualifiée d'industrielle. Mais ni le gouvernement, ni le syndicat national de l'édition ne souhaitent que cela s'applique aux petits commerçants comme les bouquinistes et encore moins aux organismes de solidarité comme Emmaüs ou autres ressourceries.
Merci Adrien Toffolet. C'est ce vendredi que sort en librairie le livre « Sous nos regards, récit de la violence pornographique ». Un document issu de 2 affaires emblématiques avec 2 procès majeurs à venir en France, les affaires French, Bukake et Jackie et Michel. Des dizaines de femmes ont porté plainte, traumatisées à vie. Après les viols, le meurtre social, le harcèlement sur Internet, je suis arrivé, et jusque devant chez elle, l'une dit avoir déménagé 18 fois en 12 ans. 15 autrices sont ainsi allées à leur rencontre pour raconter leurs histoires. Comme la journaliste et scénariste Alice Géraud, elle est interrogée par Éric Chavroux.
On voulait raconter les violences inouïes qu'ont vécues ces femmes sur les tournages et bien au-delà. Parce que ces 2 affaires sont 2 affaires extrêmement importantes, puisque c'est la première fois en France et je crois dans le monde que des responsables de l'industrie pornographique sont poursuivis, inculpés pour certains, pour des faits de nature criminelle extrêmement graves. On parle de traite d'êtres humains, de viols aggravés, de proxénétisme. Et pour nous, ces affaires-là, c'est l'occasion de dire ce qui est assez sous-documenté, qui sont les conditions et les violences qu'ont pu subir un certain nombre de femmes lors de ces tournages. Le French Bukake, par exemple, c'est une pratique extrêmement courante, des vidéos extrêmement regardées sur les plateformes, où on a des dizaines et des dizaines d'hommes qui se rassemblent cagoulés dans un hangar, qui se mettent en cercle au milieu d'une femme à qui ils vont faire subir un certain nombre de violences. Généralement, voilà, c'est des femmes, elles nous le racontent dans le livre, qui n'ont pas été prévenues de ce qui allait leur arriver. Et ce sont aussi des violences qu'on a tendance à ne pas vouloir voir, parce que Rappelons que ce qui a changé, outre cette radicalisation des pratiques vers du soi-disant amateur, mais quelque chose de plus en plus violent, de plus en plus gonzo, c'est sa consommation qui a évolué. On n'est plus sur le porno de Canal+ du samedi soir ou la location de VHS au vidéoclub du coin. Aujourd'hui, une étude récente montrait qu'on consomme plus de pornographie que de Netflix en France. On est sur une consommation massive, addictive. C'est le type qui se lève au boulot, qui part 5 minutes aux toilettes. C'est des enfants de l'âge de 10 ans qui ont un accès extrêmement facile à ces images depuis leur téléphone portable. Et assez peu de personnes se sentent concernées.
Les droits d'autrice et les bénéfices générés par la vente de ce livre sont reversés à la Fondation des Femmes pour soutenir les associations qui aident les victimes des violences pornocriminelles. Et puis ce sujet sera aussi largement évoqué dans les matins du samedi de demain sur notre antenne. Un mot du temps, encore un petit peu de soleil au nord demain, de la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'à la Bourgogne, Franche-Comté, le Grand Est. Partout ailleurs, les nuages s'imposeront dès le début de la journée. Ce journal est désormais terminé. À la technique, Paul Guigues.